10h, 11h sur RCN. Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Bienvenue dans cette nouvelle émission Et puis c'est tout, l'émission qui chaque mois traite des épilepsies. Aujourd'hui nous allons parler ensemble de transition finalement pour un enfant épileptique qui passe dans l'âge adulte. C'est le thème de cette émission, on est ensemble en direct jusqu'à 11h.
10h, 11h sur RCN, Et puis c'est tout.
Et à mes côtés pour présenter cette émission, j'ai le plaisir de retrouver Céline. Bonjour Céline.
Salut Thomas.
Des équipes relais handicap rare.
Oui, équipes relais handicap rare, on accompagne les personnes en situation de handicap rare, dont les personnes avec épilepsie sévère et troubles associés font partie.
Très bien, et vos missions du quotidien ?
De l'accompagnement, écoute, conseil, accompagnement, recherche de pistes et de solutions en fonction des besoins, des attentes, des parents, des professionnels, des personnes.
Information auprès des publics, etc. etc.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et puis alors, à nos côtés, Céline, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Domange. Bonjour Christine.
Bonjour.
Nous aurons le plaisir d'échanger ensemble tout à l'heure sur votre parcours de vie, votre expérience, celle avec votre enfant. Vous nous expliquerez tout ça tout
c'est
à l'heure,
ça.
Bien sûr. D'accord. Cette transition qui, je crois, est en cours.
Est en cours, qui vient de se faire au niveau du médico-social et qui est en cours au niveau du médical.
Bon, vous nous raconterez évidemment tout ça dans quelques instants. Avec nous également en studio, Mathieu Kuchenbusch. Vous êtes neuropédiatre au CHRU de Nancy. Au COCE. Le COCE, peut-être dire un mot de ce que c'est précisément.
Donc, c'est une école pour enfants épileptiques qui est à Flavigny-sur-Moselle.
Voilà, et donc avec vous, on va définir un petit peu ce qu'est la transition, peut-être plutôt d'un point de vue santé, évidemment. On le fera aussi avec Sylvia Castellar qui est avec nous. Bonjour Sylvia.
Bonjour.
Alors vous êtes coordinatrice du pôle enfant-adolescent du centre de ressources handicap rare et à composante épilepsie sévère FARES, hein, c'est bien ça, je dis pas de bêtises, j'ai rien oublié. Et avec vous Sylvia, vous nous expliquerez un petit peu plus le côté médico-social, c'est ça, de ce qu'est la transition ?
Tout à fait.
Bien, et je vous propose, comme on le fait chaque mois dans cette émission, de démarrer par les micro-trottoirs. On est allé interroger les gens dans la rue. Céline, plusieurs questions ont été posées. Quelle est la première question que nous avons posée ?
Et alors, j'ai oublié de demander à ma collègue dans quel ordre elle les a posées. on va voir avec Jean-Luc. Alors, la première question était, est-ce que vous savez ce qu'est la transition ? Voilà, que vous savez ce qu'est la transition ?
Eh bien, Jean-Luc, notre technicien, est d'accord avec ça. On va écouter les réponses maintenant.
C'est pas la transmission alors.
Non, c'est la transition.
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. D'accord.
Je sais pas du tout.
Non, pas du tout.
Son âge, j'imagine.
Bon, alors, a priori, c'est plutôt méconnaissance. Hein. La transition, c'est pas un sujet qui parle aux gens.
Oui, c'est ce que les collègues ont dit. On s'en était un petit peu douté. Je laisse Mathieu peut-être.
Oui, j'allais vous demander, Mathieu. Étonné un peu que les gens ne sachent pas de quoi on parle quand on parle de la transition ?
Ah bah, je suis très étonné parce qu'on a tous fait une transition, en fait. Mmh. Ça s'appelle l'adolescence. C'est ce passage de l'enfant à l'adulte. Ouais. Et il existe dans le domaine du soin et dans le domaine médico-social. Et en fait, c'est une période de préparation qui va amener l'enfant à se prendre en charge pour devenir un adulte qui prend en charge sa santé, en fait.
Ouais. Donc effectivement, on aurait pu un peu essayer de l'imaginer, mais a priori, ça ne parle pas vraiment aux gens. Christine, vous l'avez entendu, hein, méconnaissance totale.
Ouais.
Vous, avant d'être concernée, vous auriez su répondre à cette question ?
Pas forcément, effectivement. Alors c'est vrai que là, mon fils, il a 21 ans, donc la transition, elle s'est faite... là, elle vient de se faire au niveau du médico-social et au niveau de l'épilepsie. Voilà, il a une épilepsie non stabilisée.
Ouais.
Donc, c'est en cours et c'est vrai que ça pose plein de questions. C'est vrai que la transition, c'est quelque chose qui doit se préparer, je pense, sur du long terme, s'anticiper.
Ouais, on va l'évoquer, hein, évidemment, tout au long de cette émission. Sylvia, par rapport à cette, j'allais dire presque ces non-réponses qu'on a vu des gens dans la rue, vous êtes surprise ?
Un peu, je vais être un petit peu surprise parce qu'effectivement, la notion de transition, ça rejoint la notion d'adolescence. Mmh. Mais d'un autre côté, je l'entends tout à fait. C'est vrai que l'adolescence, c'est une période, on a déjà du mal, on parle de préadolescent, de post-adolescent. Donc c'est vrai que c'est une période un petit peu compliquée, un peu floue pour tout le monde.
Ouais,
mais c'est une étape charnière.
Oui, essentiel. Je veux dire, pour tout le monde, hein, pour toute personne qu'on souffre d'épilepsie ou pas, la transition est quelque chose, comme vous dites, de très, très important. La deuxième question qu'on a posée, Céline, dans la rue.
Alors, à votre avis, qu'est-ce qui, pour un jeune épileptique, change le plus quand il passe du neuropédiatre au neurologue ?
Un neuropédiatre spécialisé pour les enfants. Et souvent, les crises d'épilepsie, ça démarre chez les jeunes. Donc, je pense que voilà. Et le neurologue, c'est plus au niveau de la neurologie, le spécialiste en neurologie.
Pour les adultes.
Les adultes.
Je
pense que ça lui change parce qu'il passe un peu d'enfant à adulte en très peu de temps, juste à cause peut-être d'un problème. Ouais. Et ça peut faire peur parfois, je pense.
Probablement l'âge, qu'il a grandi, qu'il a 18 ans. Voilà, et puis au niveau de la maladie, au niveau de la santé.
Du neuropédiatre au neurologue, c'est que quand il va au neurologue, et ben là il est soigné vraiment pour son épilepsie. Puis peut-être qu'il n'est plus un enfant, puisqu'il est, il est plus en pédo. C'est, peut-être que c'est plus vu comme un trouble psychiatrique.
C'est au neurologue, c'est au niveau du cerveau, donc c'est plus approfondi.
Aucune idée.
Alors, a priori, un neuropédiatre traite des troubles psychiatriques. Mathieu Jeune-Buch, qu'est-ce que vous en pensez ? On entend cette chose un peu étonnante. Quand on passe au neurologue, on est soigné pour son épilepsie, comme si c'était pas le cas avant. Attendez, on va allumer votre micro, je pense qu'il n'est pas allumé. Voilà, c'est bon.
Donc je pense que c'est dû principalement au fait qu'on n'a pas la même vision des choses, en fait. Mmh. En pédiatrie, on a une prise en charge très globale des patients. Et l'épilepsie est un des axes du patient, en fait. Mmh. Et cette prise en charge, elle va être très ciblée sur la famille. C'est-à-dire que dans les rendez-vous de pédiatrie, on a les parents à côté, on a l'enfant, et on parle notamment aux parents, puisque c'est eux les porteurs de l'autorité parentale. Alors qu'on va passer chez les adultes, le neurologue va être plus centré sur l'épileptologie, et il va avoir plus tendance à se centrer sur l'individu, puisque c'est l'individu qui est au centre de sa prise en charge.
Mais la prise en charge de l'épilepsie, elle est quand même faite par le neuropédiatre.
Bien sûr qu'elle est faite par le neuropédiatre.
Pour autant, on s'occupe aussi quand même de l'épilepsie quand on est chez le neuropédiatre.
Tout à fait. Mais je pense que ce qui donne cette impression-là, c'est que par exemple, vous allez à l'hôpital d'enfant où il y a plein de pédiatres qui ont plein de spécialités différentes et vous êtes pris en charge globalement dans le même lieu.
Ouais.
Alors qu'en neurologie adulte, vous allez avoir beaucoup moins cette prise en charge en un lieu unique. Vous allez avoir le gastro, le neuro,
dans différents endroits du bâtiment,
et ça va être dans différents endroits, alors qu'il y a une unicité dans la pédiatrie, en fait, qui peut donner cette impression que finalement la prise en charge, elle est pas tournée vers l'épilepsie, mais vers la globalité dont l'épilepsie est une composante. Je pense que ça vient surtout de ça.
Christine, une réaction à ce que vous venez d'entendre ?
Ben oui, moi, c'est vrai que j'ai été un petit peu surprise parce que pour moi, la neuropédiatre, elle a toujours, celle qui suit mon fils en tout cas, elle s'est toujours. Elle l'a suivi pour l'épilepsie. Hein. Donc, c'est du coup, voilà, j'ai été un peu surprise de ces réactions-là. Mais alors que le neurologue est plus vu, effectivement, comme ce que vous dites, il ne fait que de la neurologie, quoi, en fait. Donc, je vois bien. Alors, c'est vrai que ce qui change, c'est que, ben, effectivement, l'enfant arrive à l'âge adulte, quoi. C'est plus un enfant. Et comme on le dit, c'est plus ses parents qui sont censés être les interlocuteurs. Alors, ce n'est pas toujours le cas, effectivement, mais
On entend ce que dit Mathieu Kschenbusch, effectivement, quand on passe chez le neurologue, c'est nous-mêmes qui sommes confrontés à notre maladie, donc le neurologue nous parle à nous-mêmes, quoi.
C'est ça, ça devrait être comme ça.
Ce qui ne peut pas forcément toujours être le cas selon le type d'épilepsie.
Oui.
Sylvia Castellar, je rappelle que vous êtes avec nous au téléphone, une réaction à ce micro-trottoir. Vous ne réagissez pas trop sur la notion de psychiatrie, pourtant ça ressort. Moi, je suis assez surpris quand même qu'on nous dise finalement, quand on est enfant, l'épilepsie serait considérée comme une maladie psychiatrique, alors que quand on devient adulte, ça deviendrait une maladie neuronale ou neurologique.
Je pense que je ne réagis pas parce que c'est un classique, en fait.
Ouais.
C'est un classique de prendre les épileptiques pour des fous.
Ouais.
Parce que dans leur crise, dans leur description des crises, ils peuvent avoir des choses qui sont complètement improbables. On a des patients qui sortent de leur corps, qui se voient par derrière dans les crises d'épilepsie. On a des crises de rire, des crises de peur. Il y a des patients qui ont des manifestations psychiatriques d'épilepsie, en fait. Et cette liaison entre épilepsie et psychiatrie
est
très facilement faite, en fait, et même trop facilement faite.
Oui, parce qu'elle n'est pas réelle, en réalité, en fait.
Alors, il y a des comorbidités. Quand vous êtes épileptique, bien sûr, ça peut vous créer des malaises dans votre vie, ça peut faciliter de la dépression, de l'anxiété. Il y a des vrais liens, quand même. Mais il faut savoir faire la part des choses. Et on sait très bien que dans les hôpitaux psychiatriques, parfois, il y a des patients épileptiques, en fait. Et faire la part des choses, c'est les sortir aussi de la psychiatrie en leur disant, vous n'avez pas de pathologie psychiatrique,
mais
vous êtes atteint d'une pathologie neurologique. Et c'est très important de réussir à faire le distinguo.
Sylviane, réaction à tout ce qui se dit en ce moment, là, suite à ce micro-trottoir.
En fait, je pense que je ne peux que conforter les propos de Dr Kschenbusch par rapport à ce qu'il vient d'expliquer. C'est effectivement ça. Pour travailler, moi, au niveau du pôle enfant-adolescent, peut-être aussi que, on va dire que classiquement, quand il y a un souci, on va peut-être diriger plus aisément vers la pédopsychiatrie. Et là, ça veut dire réorientation vers la neuropédiatrie, bien souvent.
Ouais. Donc effectivement, il y a quand même une espèce de finesse à avoir pour savoir vers où orienter l'enfant. Est-ce que c'est vers la neuropsychiatrie ou est-ce que c'est vers la neurologie, enfin la psychiatrie ou la neurologie plutôt. Ouais, je vais y arriver. On va écouter la réponse à la troisième question qui a été posée dans la rue, Céline, qui était.
Oui, qui était. Qu'est-ce qui, d'après vous, rend cette transition plus difficile?
Le regard des autres.
Peut-être la façon de voir la maladie, je ne sais pas.
Il y a l'âge, il y a tout ça. Hein. C'est, je pense que, comme toute transition de l'âge enfant à l'âge adulte, hein, je pense que... D'accord. Tu dirais quoi, toi?
Non, mais je dirais que oui, c'est vrai que oui, enfant-adulte, oui, c'est vrai que oui, c'est un autre passage. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Puis je serais peut-être un spécialiste, pédiatre, neurologue, mais c'est autre chose aussi, oui. Voilà.
Peut-être le changement réalisé à l'adulte qui sont devenus, qui sont malades ou qui a quelque chose qui est compliqué. Bah, je sais pas, c'est la vie médicale. Peut-être que le neuropédiatre les dirige vers le neurologue.
Ceux qui sont épileptiques ont l'habitude d'avoir certaines personnes et après, peut-être que d'avoir d'autres personnes ou d'autres... pour eux, il y a des repères peut-être aussi quand ils sont enfants et puis ils trouvent peut-être plus les mêmes repères après.
Bon, une perte de repères, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut imaginer difficile à vivre quand on est dans cette transition, Mathieu Cuchon-Buche.
Alors, on a posé cette question parce que je pense qu'une des points importants, c'est de bien identifier les barrières de transition. Mmh. Si vous identifiez les barrières, vous pouvez lutter contre elles, en fait. Mmh. Donc, l'une des barrières de transition, c'est notamment les liens entre la famille et le neuropédiatre. Hein. Mmh. C'est des familles qui ont vécu... L'épilepsie est souvent beaucoup plus grave dans la prime enfance et a tendance quand même à se calmer avec le temps. Donc c'est des parents qui ont vécu une annonce diagnostique difficile, un début de maladie parfois très difficile avec un pédiatre, et ça a créé beaucoup de liens en fait. Et à 18 ans, leur dire bah, maintenant c'est fini,
ouais.
C'est une sorte de rupture en fait. Et dans une période difficile, hein, faut pas oublier quand même que nos enfants malades, ils ont une adolescence aussi.
Oui, bien sûr.
Et cette adolescence, déjà quand on va bien, l'adolescence c'est pas simple, ouais. Mais quand on est malade, c'est encore plus compliqué. Et c'est vraiment une zone de fragilité très importante. Pourquoi c'est important de faire une bonne transition? Bah, c'est parce que si la transition est mal faite, on a des déséquilibres, on a des patients qui arrivent aux urgences, on a des patients qui font des états de mal épileptiques, on a beaucoup de crises, et c'est pour ça que la transition, ça se travaille et ça se prépare. Dans les facteurs de retard de transition, il y a aussi le fait qu'il y ait un retard mental. C'est aussi un facteur qui va avoir tendance à décaler la transition vers les âges plus avancés. Mais en même temps, dans les littératures, il y a des situations aberrantes où il y a des patients de 70 ans qui étaient suivis par des neuropédiatres. Ce qui n'a pas de sens non plus, en fait. Parce que la réalité aussi, c'est que pour des problématiques beaucoup plus complexes, comme le travail, le permis, la sexualité, ben, le pédiatre reste le pédiatre.
Ouais, c'est ça, il n'est pas allé jusque-là.
Il est assez. Il va être limité dans ses. Même s'il essaye de se tenir à jour, il va être assez limité et peu confronté aux problématiques, en fait. Alors que le neurologue est très confronté à ces problématiques-là.
On entendait quelqu'un dans le micro-trottoir qui dit le fait de passer de pédiatre à neurologue comme si c'était quelque chose de difficile à concevoir, comme si pédiatre était plus doux que neurologue. Je sais pas si vous l'avez entendu comme ça, moi je l'entends dans ce micro-trottoir et c'est pas que ça me surprenne, mais je me pose la question de savoir si effectivement ça peut rendre les choses peut-être plus difficiles, si, Christine, oui, pardon.
Mais je pense que le changement, alors c'est vrai qu'il y a une difficulté, mais le changement, moi je le vois pas tant dans la personne, le médecin, le passage du pédiatre au neurologue, parce que à partir du moment où il est médecin, voilà, il a sa spécialité, ses compétences sont là, c'est plus l'environnement, en tout cas, voilà, dans ma situation, c'est plus l'environnement, c'est le changement, les urgences, ne serait-ce que les urgences pédiatriques par exemple, c'est pas du tout la même chose que les urgences adultes, les changements de service, on n'a pas, voilà, et moi c'est plus ça, l'environnement en fait, on a nos repères avec même les personnes qui font passer les EEG, qui nous connaissent,
électroencéphalogramme,
qui connaissent, quand il va faire une prise de sang, il arrive et il est repéré. Et c'est tout ça qu'il faut reconstruire au niveau du médical, mais comme il faut le reconstruire aussi au niveau du médico-social. Ça se fait, hein, mais c'est vraiment, c'est plus tout ça qu'il faut reconstruire en tout cas. Mais pour moi, en tout cas, je n'ai pas le sentiment que ce soit une question de personne, de médecin en tout cas.
Sylvia Castellar, justement, on reparlera avec vous de l'aspect médico-social, mais ça n'a pas été tellement évoqué par les gens qu'on interroge dans la rue. On a l'impression que c'est plutôt l'aspect médical qui rend la transition difficile. Ça vous fait réagir?
Alors oui, ça me fait réagir, mais effectivement, c'est-à-dire, souvent on parle de la transition dans le cadre du parcours sanitaire. Mais il n'y a pas que cette transition-là, il n'y a pas que ce transfert de dossier vers le service de neurologie adulte. Il y a toute l'histoire de vie, tout le parcours de vie de l'enfant qui devient adolescent et qui va devenir jeune adulte. Alors, vers quelle orientation, vers quel parcours scolaire va-t-il pouvoir conduire, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que je suis un peu surprise. Sur le micro-trottoir, ça ne soit pas abordé.
Oui, pas du tout. Hein. C'est vraiment l'aspect purement médical qui ressort et pas du tout l'aspect psychosocial. Oui.
Après, ça ne concerne pas une grande proportion de patients, hein, ce passage médico-social. Hein.
Oui. Mmh.
Il comporte une plus faible proportion de nos patients, mais c'est nos patients les plus fragiles.
Oui.
Donc, c'est ceux qui sont en plus mis en fragilité. Et c'est vrai que le fait que cette transition ait lieu à deux temps différents est extrêmement complexe.
Oui.
Nous, on a tendance...
va en reparler, vous allez nous réexpliquer ça dans un instant, d'ailleurs, cette temporalité.
D'accord.
Mais finissez votre phrase.
Mais le problème des urgences, chez nous, par exemple, on essaie de vraiment faire nos transitions avant 18 ans, parce qu'un enfant arrive aux urgences adultes et est hospitalisé en neurologie adulte à 18 ans. Donc il est au centre-ville de Nancy, alors que nous, on est à Brabois.
Ouais.
Donc du coup, on essaie de ne pas se retrouver dans cette situation.
Oui, donc vaut mieux l'anticiper, en fait.
On anticipe.
Très bien. Dernière question que vous avez posée aux gens dans la rue, Céline.
Oui. Si vous pouviez donner un conseil à un jeune épileptique qui quitte le service pédiatrique, quel serait-il ?
C'est peut-être pour l'acceptation, non ? Oui, d'aller voir le neuropsychiatre pour accepter la maladie ou pour apprendre à vivre avec.
Bah, que c'est pas grave, c'est ok. Enfin, c'est pour l'aider lui et puis c'est pas forcément contre lui.
Bah, qu'il fasse confiance au milieu médical, qu'il se laisse guider ou par ses parents ou voilà.
De bien se faire suivre malgré que c'est un service d'adulte, voilà.
De suivre son traitement.
J'en ai réfléchi, donc je sais pas.
Faire confiance aux services médicaux et suivre les conseils de ses parents, c'est pas évident quand on est adolescent déjà à la base. Est-ce que ces conseils-là, vous les entendez ? Est-ce que vous y souscrivez ? Mathieu, Jeanne Buch ?
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété dans le jeu en fait. Et que déjà réussir à lever l'anxiété et rentrer dans une sorte de confiance, bah, ça aide beaucoup. Mais la confiance, je pense qu'elle est d'autant plus forte qu'elle a été préparée.
Ouais, qu'elle a été construite en amont.
C'est ça. Parce que ça, c'est un enjeu primordial. Hein. Les recommandations sur la transition, c'est un début de transition qui commence à 12 ans. Et il y avait un point que j'ai pas dit, c'est qu'on confond trop facilement la transition et le transfert. Le transfert, c'est le jour J quand vous passez du neurologue au neuropédiatre, du neuropédiatre au neurologue. C'est un jour J, c'est un temps T. Alors que la transition, c'est une période qui va avant, et il y a même des gens qui disent qu'elle va après le transfert. Qu'elle dépasse l'histoire du transfert pour refaire un point et voir si tout s'est bien passé. Alors après, on est toujours contraint dans nos temps, dans nos moyens. Donc c'est vrai qu'on fait un peu comme on peut. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais.
Mais cette transition, en tout cas à 12 ans, il faut commencer à dire à la personne qu'un jour elle va passer chez les adultes. Est-ce qu'elle connaît sa maladie ? Est-ce qu'elle connaît ses traitements ? Et puis je pense que vers 16 ans, il est bien de dire aux parents, est-ce que vous pouvez sortir pour nous laisser 10 minutes, discuter des sujets qui sont propres à votre enfant avec lui. Et c'est aussi une manière de faire grandir à la fois les parents, qui se rendent compte qu'ils vont devoir lâcher, et les enfants qui vont se dire, moi j'ai un peu ma place.
Et puis on en reparlera après, mais je pense qu'il y a des thématiques effectivement que l'enfant à 16 ans n'a pas envie d'aborder devant ses parents de manière. Donc effectivement c'est important. Ouais.
Tout à fait.
Sylvia Castellar, suite à cette dernière question du micro-trottoir, des réactions sur les conseils à donner aux enfants ?
Alors effectivement, je veux dire que dans le cadre du médico-social, la difficulté c'est que dans la transition classique, on va dire, l'enfant est le jeune adolescent est en capacité peu à peu de se prendre en charge. Dans le médico-social, il va y avoir souvent une notion de déficience intellectuelle où les parents vont devoir rester quand même en présence et en proximité. Et c'est ça qui est compliqué dans la transition vers le monde des adultes pour une personne en situation de handicap épileptique. Comment faire avancer l'enfant ? Comment faire cheminer à la famille ? Tout en sachant que là, il va y avoir besoin d'un support et d'un soutien.
On reviendra ensemble sur la place des parents dans le cadre des enfants qui souffrent de handicap lié à leur épilepsie. Christine ?
Là, on parle de confiance. C'est vrai que la confiance, c'est primordial. Alors, au niveau du passage à l'âge adulte, c'est compliqué, effectivement, quand les enfants quand ce sont des adultes très déficitaires, parce que, par exemple, dans le cas de mon fils, je peux pas ne pas être là, il exprime pas, enfin il exprime pas verbalement. Et effectivement, alors par contre, ce que j'ai en tête, c'est aussi l'après, parce que je suis pas éternelle et qu'à un moment donné, il va falloir aussi que la transition, elle se fasse avec les professionnels qui s'occupent de lui. Mais c'est vrai qu'il faut, c'est sur du long terme et il faut. On peut pas. Enfin, là, il vient de passer dans le médico-social. Alors, je sais qu'à plus ou moins long terme, c'est aussi les professionnels du médico-social qui vont peut-être accompagner. Mais voilà, il faut que ça se fasse tranquillement aussi, quoi.
On vous posera la question aussi à vous, Sylvia, justement, à la question de Christine. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le parent n'est pas éternel, mais on se la posera dans quelques instants. On va continuer d'échanger dans un instant. D'ailleurs, vous nous redéfinirez réellement la transition, Mathieu Kuchenbusch, pour l'aspect plutôt médical et pour l'aspect plutôt socio-médical, médico-social, pardon, avec vous, Sylvia Castellar. Ce sera dans quelques minutes, peut-être le temps pour nous d'écouter un premier titre. J'ai pas bien vu, c'est M qu'on écoute, c'est ça? Non, c'est l'autre. Évidemment, je me trompe. Nous écoutons tout de suite November Ultra, Soft and Tender sur RCN. There's a million things I want, but there's one thing that I need. It's to see your face tonight when I'm dreaming. There's a million things I want, but you're the one thing that I need. I gotta see your face tomorrow when I'm waking.
Wake up, my darling.
It takes a lot for me to say, but I want you to stay with me. With me. It takes a lot for me to say, but I want you to stay with me. Oh,
c'est moins joli en français.
RCM, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
En direct sur RCN pour parler aujourd'hui de la transition et notamment de la transition des personnes qui souffrent d'épilepsie. Toujours entouré de Mathieu Cuchonne-Buch, neuropédiatre au CHRU de Nancy et au COCE, Centre d'observation et de cure pour enfants épileptiques. De Sylvia Castellar, coordinatrice du pôle enfants-adolescents du Centre de ressources handicap rare et composant épilepsie sévère Fares. Et puis à nos côtés également, et on est très heureux de l'accueillir à nos côtés, Christine Domange. Domange, je dis bien
Domange,
votre nom.
Oui, c'est ça.
Vous êtes mère, la maman d'un jeune adulte épileptique, un peu notre grand témoin ce matin. Et on vous remercie d'être là parce qu'en plus, vous venez pas de tout près.
De Reims.
Arrivez de Reims quand même ce matin. Et on vous remercie mille fois d'être à nos côtés. Alors, comme je le disais, on parle donc ce matin de transition. Je vais m'adresser un peu à vous, Mathieu Cuchonne-Buch, puis aussi après à vous, Sylvia Castellar. J'aimerais bien que vous nous définissiez ce que c'est la transition. Est-ce que d'abord, ça concerne tout le monde ? Et ensuite, plus particulièrement dans le cadre des épilepsies.
Alors je dirais que ça concerne avant tout tous les patients atteints de maladies chroniques.
D'accord.
Et c'est une période de préparation du passage du système de soins pédiatrique au système de soins adultes. Hein. Ça commence en général à 12 ans pour se terminer vers 18 ans. Mmh. Et il y a tout un process qui va nous permettre de rendre le jeune adulte indépendant en fait. Et d'essayer de répondre à ses questions pour améliorer son orientation dans la vie adulte.
Oui, donc c'est vraiment l'accompagnement je suis enfant, je deviens adulte, mais avec ma maladie.
Oui, et on parle notamment même de la mise en place d'un plan de transition dans certaines recommandations, notamment les recommandations américaines, où on va mettre tout un plan pour arriver à ça, en fait.
Et donc, il y a des process qui existent, qui sont définis, ou comment ça se passe ?
Alors, il y a pas mal de ressources qui existent. Hein. Je pense qu'il y en aura qui vont être mis en lien avec l'émission, mais il y a énormément de ressources qui existent. Il hein. y a des questionnaires qui existent pour voir si le patient est bien conscient de sa maladie, en fait. Parce que c'est avant tout l'apprentissage de sa maladie, le passage à la vie adulte et des conséquences de la maladie dans la vie adulte qui est définie. Hein.
Alors, ce qui est difficile aussi, d'un point de vue... alors, je reste avec vous sur l'aspect médical, mais c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une épilepsie. Il y a mille ou je ne sais pas combien de milliers d'épilepsies différentes, des patients différents. Comment on gère ça ?
Alors, il y a des transitions différentes, il faut être honnête. Hein. Un patient qui va très bien, qui a une épilepsie très simple, ne va pas avoir la même transition qu'un patient beaucoup plus complexe et beaucoup plus grave, entre guillemets. Un patient qui va très bien, c'est souvent un courrier d'adressage, en fait.
Ah oui.
On va faire un courrier qui va expliquer la maladie du patient qu'on va remettre à un médecin de ville, à un neurologue de ville, par exemple, ou à un neurologue hospitalier, mais qui va être relativement succinct et qui va juste donner les informations essentielles, avec toute une préparation avant qui va être les métiers interdits en épilepto,
Oui, il y a quand même toute cette phase un peu informative. Ouais.
On peut pas avoir des patients qui s'orientent par exemple sur le port d'armes alors qu'ils sont épileptiques, on sait qu'ils vont avoir un refus.
Ouais.
Donc c'est à nous aussi de les orienter comme il faut. Moi j'avais un patient qui voulait être couvreur, c'est complètement aberrant d'être couvreur épileptique. Mmh. C'est une erreur de parcours et c'est un mauvais départ dans la vie.
Ouais.
Donc ça c'est important pour c'est notre rôle de faire en sorte que les patients prennent des métiers compatibles avec leurs conditions médicales en fait. Et donc il y a ces transitions beaucoup plus simples où ça va être plutôt un courrier puis on va avoir fait toute une préparation puis un tenté on va envoyer faire un confrère qu'on connaît, qu'on respecte. Et puis il y a des transitions beaucoup plus complexes où on va là avoir tendance à discuter entre médecins directement d'une situation particulière, d'une famille particulière pour le sensibiliser à la situation.
Donc c'est-à-dire que vous êtes en contact avec le neurologue qui suivra ensuite pour lui expliquer un peu ce que vous avez vécu.
Alors nous, on a des staffs neurologie pédiatrique, neurologue adulte qui nous permettent de faire nos transitions les plus complexes. Bon, alors on peut passer un coup de fil, on travaille de manière
coordonnée
parce qu'on appartient au même centre de référence. Hein.
D'accord.
Donc s'il y a un centre de référence épilepsie rare, enfants et adultes, il doit y avoir 12 CHU en France qui ont ce type de centre. Et donc on a une structuration quand même qui nous permet de porter les épilepsies rares et plus complexes.
D'accord, ouais. Donc avec une vraie collaboration,
tout à fait.
Un vrai transfert. Et un transfert qui s'accompagne de la transition. De votre côté, Sylvia Castellar, la transition, vous définissez ça comment ?
Alors, je rejoins tout à fait ce que Dr Cuchonne-Buch a expliqué. Et ça va être aussi peut-être sur le projet global. Il va falloir aussi penser, par exemple, d'un point de vue administratif, si le jeune en situation de handicap à 18 ans, est-ce qu'il va avoir besoin d'une mesure de protection. Donc c'est à 18 ans que la famille doit réfléchir, avant 18 ans, que la famille doit réfléchir à une mesure de tutelle, de curatelle, une habilitation familiale. Ça peut être aussi en lien effectivement avec la scolarité, en rejoignant Dr Cuchonne-Buch sur des métiers qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Ça va être bien évidemment tout ça. Ça va être aussi s'il y a un dossier MDPH à 20 ans, on va pouvoir prétendre à une allocation particulière. C'est aussi ça la difficulté. On dit en règle générale qu'on passe vers 16 ans dans le cadre du parcours de soins dans le milieu adulte. À 18 ans, on devient jeune adulte d'un point de vue légal en France. À 20 ans, on a le dossier MDPH, mmh. où là, on bascule dans le monde des adultes. C'est toutes ces difficultés-là qui sont compliquées.
Oui, on voit que c'est un accompagnement très global que vous avez à mettre en place. Ça peut aller aussi, j'imagine, sur l'hébergement, sur des choses comme ça.
Tout à fait. Tout à fait, effectivement. Un jeune adolescent qui est en structure, il va pouvoir être en IME, par exemple, et il va falloir trouver une structure adulte type MAS, FAM, maison d'accueil spécialisée, foyer d'accueil spécialisé ou autre, habitat inclusif, et ça va être une grande découverte, ça va vraiment être plein de choses à penser, à réfléchir avec la famille, avec le jeune surtout, ouais. pour travailler autour de son autodétermination et essayer de le mobiliser pour qu'il devienne le plus acteur possible de sa vie.
Il y a une chose qu'on remarque très souvent, les familles sont très impliquées, très investies souvent dans l'épilepsie de leurs enfants, et on le comprend, hein, parce que on entend souvent cette peur de la crise, souvent une anticipation même. Comment est-ce qu'on fait, je vais pas dire couper le cordon parce qu'on le coupe peut-être pas complètement, mais comment est-ce qu'on fait pour accompagner la famille, pour justement permettre une meilleure autodétermination du patient, comment est-ce qu'on accompagne tout ça? Je sais pas qui de Mathieu ou Sylvia veut répondre. Sylvia?
Alors comment on fait? Je pense qu'en fait, on va travailler déjà avec leur expérience. Ils ont une telle expérience en fait de leur jeune enfant avec cette épilepsie, qu'on va se saisir de tout ce qui est trucs et astuces pour pouvoir le transmettre aux professionnels qui vont accompagner. Ça va déjà sécuriser beaucoup. Ça va être aussi essayer d'amener le jeune à être le plus acteur de sa pathologie et à pouvoir se gérer, accepter le traitement, accepter d'avoir une hygiène de vie la plus correcte possible. Ça va être tout ça qui va permettre en fait à la famille de se dire mais je peux faire confiance, mon enfant qui a grandi et qui est devenu un adolescent et pratiquement un jeune adulte va pouvoir être pris en charge parce qu'ils ont saisi comment on allait faire.
Oui, donc on voit qu'en fait, finalement, on accompagne à faire comprendre aux parents, aux familles, que l'enfant grandit aussi et qu'on peut lui faire confiance.
Oui.
Ça, c'est important. Mathieu, Jean-Buch.
Je pense aussi qu'on les accompagne au fait qu'ils vont vieillir, en réalité.
Ouais. Alors, oui, voilà, c'est un peu... Si je pose cette question, c'est parce qu'on entendait Christine qui nous racontera, et on parlera plus précisément de son histoire dans quelques minutes, mais qui nous disait « je suis pas éternel ». Et c'est vrai. Il y a un moment donné, c'est vrai. Et puis, je pense que si on veut continuer d'aider ses enfants, il faut aussi qu'à un moment donné, on puisse prendre du recul. Et tout ça, ça s'accompagne, ça se construit avec les parents aussi, j'imagine, Mathieu.
Tout à fait. On a des situations très difficiles avec des parents qui vieillissent, avec des enfants qui ont pris du poids, hein, qui sont devenus des jeunes adultes, parfois en obésité. Et c'est des familles qui sont mises en grande difficulté. Hein. Sans compter la difficulté financière. Il ne faut pas nier qu'un handicap, ça a un coût financier énorme. Donc c'est des familles qui sont très précaires, qui sont souvent précaires, avec parfois des fragilités de la structure familiale, avec parfois des divorces qui sont liés à la maladie, c'est quand même aussi classique, c'est des situations de vie tellement difficiles.
Des arrêts d'emploi aussi, je pense.
Des arrêts d'emploi, il y a beaucoup de mamans qui arrêtent de travailler pour s'occuper de leur enfant, c'est un grand classique, hélas, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est des situations qui doivent être anticipées. Il y a quelque chose qu'on ne rappelle jamais assez, c'est le temps d'attente avant de rentrer dans un IME. Et quand vous êtes rentré dans un IME, votre vie elle a changé, vous avez enfin trouvé une structure qui accepte votre enfant et qui le prend en charge. Et arrivé à 18 ans, 20 ans, on vous dit c'est fini, il faut trouver une autre structure. Donc les parents repartent dans un cycle très difficile de il faut trouver une structure, qu'elle soit près de chez moi, qu'il y a un délai d'attente qui soit correct et que mon enfant il soit bien.
Donc si je vous comprends bien, ça veut dire qu'en fait on revit une deuxième fois les difficultés qu'on a pu vivre une première fois. Il y a une rupture, quoi. Il y a un moment donné de rupture.
Bah oui, alors je vais laisser Sylvia répondre, parce que c'est vraiment son domaine, mais c'est un classique, à mon avis, des familles.
C'est vrai, c'est tout à fait ça. En fait, c'est vraiment un parcours, et là, on se dit qu'au moment de cette transition à l'adolescence, on a le sentiment de tout devoir recommencer. Et c'est ça qui est compliqué pour les familles, et c'est ça qu'il faut accompagner. Parce que... c'est un nouveau monde. Est-ce que les professionnels d'une maison d'accueil spécialisée vont savoir prendre en charge l'épilepsie, les troubles associés à l'épilepsie? Est-ce que les gestes de secours vont être connus? On va être vraiment sur toutes ces dimensions-là qui vont apporter vraiment beaucoup de difficultés et beaucoup d'inquiétudes. En fait, c'est une période de très grande fragilité pour l'adolescent, mais bien évidemment pour les familles qui sont déjà très épuisées. Parce que si l'épilepsie a commencé très très tôt,
ouais, bien sûr.
Ce sont des parents qui sont épuisés parce qu'ils ont accompagné. Docteur Kuchenbusch l'a dit tout à l'heure, souvent l'épilepsie est très active dans l'enfance. Mmh. Donc des parents qui ont peu dormi, qui ont été très stressés, très inquiets, qui ont dû faire un parcours de soins de droite et de gauche pour pouvoir avoir un diagnostic, avoir la meilleure prise en charge dans le cadre du parcours de soins. Et là, au moment de l'adolescence, on a le sentiment on doit tout recommencer. Mmh. Et là, sur une famille qui est déjà très éprouvée.
Parce que, Céline, tu voulais réagir ?
Oui, non, mais c'est en lien avec tout ce qui est dit. Oui, c'est la question justement de l'anticipation et du temps,
qui
est donné à tout ça. Parce qu'on entend dans les propos de Mathieu Kuchenbusch et de Sylvia et de Christine, évidemment, la multiplicité, la diversité des démarches à mener. Non seulement il y a les démarches,
mais avec
il y a aussi
un recommencement. Moi, ce qui me surprend, c'est ça, c'est qu'en fait, on est installé, si je vous entends bien, on est installé dans un système qu'on a mis du temps à monter, à construire, où l'enfant est pris en charge, etc. Et d'un seul coup, bim, ça faut recommencer à zéro. C'est-à-dire si j'ai bien entendu, il y a un moment aussi où l'enfant revient à la maison s'il était en IME et il faut retrouver une place ?
On fait en sorte que non, justement, d'où la nécessité d'anticiper, alors c'est pas une prévision nette, mais anticiper, rester auprès de la famille et des professionnels pour pouvoir accompagner ce chemin avec un maximum de sérénité possible pour éviter des ruptures. L'enjeu, il est là.
Ah oui, c'est ça.
Éviter effectivement des ruptures et accompagner les personnes à faire face à ces changements qui donnent l'impression de devoir tout reconstruire. Mais je vais laisser la parole à Christine.
Quand il est passé en secteur adulte, il n'y a pas eu de rupture, il n'est pas revenu à la maison.
À la maison.
Parce qu'ils le maintiennent justement en IME le temps qu'il y ait une place qui se libère en secteur adulte. Mais là, en secteur adulte, pour le moment, il est accueilli qu'en accueil de jour. Alors que la prévision, c'est de internat, parce qu'effectivement, moi je suis pas éternelle, c'est ce que je disais. Et de toute façon, je sais qu'il faut que je passe le relais. S'il m'arrive quelque chose demain, faut pas que les choses se fassent dans la précipitation. En fait, la transition, effectivement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur du long terme, et il faut que ça se prépare. Il faut pas que du jour au lendemain, il se retrouve dans un lieu où il a jamais rencontré personne, ou parce qu'il m'arriverait quelque chose, ou que j'aurais besoin d'être hospitalisée, quoi.
Bien sûr.
Donc, c'est vrai que ça se fait. Alors, l'entrée en IME pour Caïs, elle s'était faite, il avait 11 ans. Donc, à l'époque, c'était pas parce qu'il n'y avait pas de place, c'était parce que moi, j'ai eu du mal aussi à ce passage en établissement médico-social. Mais une fois que le travail était fait à mon niveau, ça y est, je savais que c'était. Pour lui, en tout cas, jusqu'à la fin de ses jours. Il ne peut pas être autre. Il dépend d'un FAM, foyer d'accueil médicalisé, et ça ne peut pas être autrement qu'en établissement. Donc maintenant, je l'ai bien accepté. Et je pense qu'effectivement, je suis prête aussi à ce que ce soit des professionnels qui prennent le relais. Mais le jour où il sera en internat, là, il rentre encore tous les jours à la maison. C'est encore. Je suis sur le qui-vive par rapport à ces crises, par rapport aux dangers que ça peut représenter, par rapport à ces chutes, par rapport à la prise du traitement, c'est encore moi.
Vous portez encore cette charge mentale là.
Et c'est pas parce que je le veux absolument, c'est juste parce que pour le moment il n'y a pas de place sur de l'internat.
Alors qu'il était en internat, donc.
Non, il n'était pas non plus en internat.
Donc pour vous, c'est
la continuité. Il est juste passé en secteur adulte, alors c'est bien, il a un pied dans le secteur adulte, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Mais ça reste encore de l'accueil de jour pour le moment.
C'est difficile de trouver des places en internat, du coup ?
Ben oui, parce que les établissements pour adultes, en fait, ce sont des établissements, enfin, les femmes, souvent, c'est des établissements d'une trentaine de places. Et une fois que les adultes y entrent, ils y restent jusqu'à leur décès.
Ouais.
Voire éventuellement, s'il y a un déménagement de la famille, il peut y avoir des transitions comme ça, mais Mais les places ne se libèrent pas. Et on n'est pas dans une politique de construction, ouais, d'établissement, mmh, ou d'ouverture.
On entend bien la charge, ouais, là, que porte Christine. Effectivement, Mathieu Kuchenbusch ou Sylvia Castellar voulaient peut-être réagir à ce qu'elle nous dit, mais il y a une charge quand même mentale très importante pour la famille dans ce cadre-là.
Ah ben bien sûr, je pense que ça appartient un peu aux invisibles de la société.
Ouais. Ouais.
C'est-à-dire que c'est tout un travail, c'est toute une... c'est des gens qui ont une vie qui est différente, parce que c'est, le handicap est vraiment très poignant dans leur vie, en fait. Mmh. Mmh. Et il amène à reconsidérer, à mon avis, son cadre de vie, en fait. Et à reconsidérer ses attendus et ses essentiels, parce que vous êtes face à un enfant qui a beaucoup de besoins, et y a un deuil à faire, je pense, d'abord, et puis il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est pas normal qu'on ait à s'inquiéter comme ça, en fait.
Ouais. Mmh.
On a déjà trop d'inquiétudes pour avoir, en plus, des inquiétudes de place, des inquiétudes de où est-ce que mon enfant va être, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui va lui arriver. C'est des questions qui sont déjà dures, en fait, même pour nos propres enfants qui vont bien,
ouais,
c'est une vraie question.
Et c'est ça, oui.
Mais quand votre enfant a un handicap, la question est beaucoup plus lourde, en fait.
Oui, on pense, c'est un truc tout bête, mais on pense aux familles qui s'interrogent toujours au moment de Parcoursup, par exemple.
Oui.
Mais c'est rien à côté.
Bien sûr.
C'est très gentil à côté.
C'est d'autres questionnements.
Oui, mais qui finalement, quand on regarde bien, n'impactent pas complètement la vie, et donc on imagine plus volontiers. Oui.
Et puis, il y a aussi toute la question, effectivement, d'identifier un établissement adulte, en sachant qu'ils sont saturés, on peut le dire, et donc avec la nécessité, quelquefois, de devoir penser, surtout dans des situations très complexes, avec de multiples troubles associés, de penser quelquefois à un éloignement géographique qui est presque de l'ordre de l'indécence.
Ouais.
On habite à Nancy, on va devoir, et je dis bien devoir, placer son enfant dans le sud de la France,
parce qu'il
ailleurs,
y a que là où il peut...
parce qu'il n'y a que là où il peut accéder. Voilà, ça reste un enjeu et d'énormes inquiétudes qui sont surajoutées à une situation qui génère déjà beaucoup d'inquiétudes.
Sylvia, vous accompagnez ce genre de situation, justement? Ça vous arrive d'avoir des familles où vous voyez les enfants très loin?
C'est ça, c'est tout à fait. On a des familles qu'on accompagne où ils vont passer d'un département de Nouvelle-Aquitaine pour venir en Lorraine ou pour et c'est très compliqué parce que effectivement ça veut dire que les contacts avec la famille vont être différents. Souvent c'est aussi, ça peut être un objet de refus, mais vous êtes à 500, 600 kilomètres, ça ne va pas être gérable. Mmh. Et puis parfois l'adolescent lui-même va faire le test, va essayer d'entrer dans cet établissement et le manque de la famille qu'on entend très bien va être trop important. Il va falloir réfléchir à une réorientation encore une fois. Donc, oui.
Mais réorientation sans forcément avoir les solutions à proposer tout de suite non plus.
Et puis, allez-y, Mathieu. Et puis en plus, ça se reporte. C'est-à-dire que votre enfant qui n'arrive pas à quitter l'IME bloque une place à l'IME.
Mais c'est ça.
En plus,
ça, c'est un problème. Il y a un problème de report des choses, en fait. C'est que l'enfant n'arrive pas à rentrer chez l'adulte, donc bloque une place chez l'enfant.
Mais alors, si je vous entends, le parcours de transition, il commence vers 12 ans, c'est ça?
Dans l'idéal, oui.
Mais est-ce que ça veut pas dire qu'il faudrait presque l'anticiper dès que la maladie est diagnostiquée? En fait, quand on entend les problématiques, c'est hyper complexe.
Ah ben, il faut, à mon avis, anticiper à 3 ans minimum avant, hein.
Ouais.
Les entrées en IME, à mon avis, il faut savoir les anticiper 3 ans avant. Hein.
Oui, parce que ça se prépare pour l'enfant. Là, on l'entend, ce que dit Sylvia. Hein. L'adolescent qui va rentrer en IME loin et qui finalement est loin de sa famille et ne supporte pas bien, enfin, c'est quelque chose qu'il faut réussir. Je ne sais même pas si ça peut se construire d'ailleurs, ça.
Bah, si, parce qu'il y a quand même des tours d'attente, entre guillemets, dans les IME. Donc, si vous prenez votre tour d'attente tôt, ben, vous avez une chance d'y arriver
d'être
à l'âge
plus proche, du coup.
Ce qui est la situation qu'on déteste, c'est des enfants qui arrivent à un âge de 8-10 ans et tout d'un coup, il faut les mettre en IME brutalement en un mois. C'est ces enfants-là qui sont très difficiles à gérer parce que tout d'un coup, ça va plus, il faut qu'il aille en IME dans un mois. Mais ça, c'est ingérable. Si ça a été anticipé, si à l'âge de 5 ans, on a dit à 7 ans, il faut qu'il rentre en IME, donc on commence à voir les structures, on commence à faire du lien, on commence à mettre notre dossier, les choses vont être beaucoup plus fluides, en fait.
Mais on risque pas d'avoir quand même l'éloignement de l'enfant, parce que moi, c'est vraiment cette notion-là que je trouve très...
Si vous anticipez, vous avez moins de risque.
Voilà, moins de risque.
D'où l'intérêt d'avoir vraiment une anticipation presque tout de suite, quoi, quelque part.
Alors, l'éloignement, c'est surtout pour les jeunes adultes, à mon avis. En IME, on a moins cette problématique-là. On peut pas séparer les enfants à 500 km heure par an, c'est pas possible.
Oui, mais alors, du coup, pour le jeune adulte, c'est pareil. Quand on vit avec un trouble d'épilepsie, avec multi-handicaps qui peuvent être liés, c'est vachement difficile,
Bien sûr que c'est très dur.
Ça crée une rupture encore plus complexe à un moment où l'adolescence est déjà compliquée en termes généraux.
Ah, ça c'est sûr.
On va continuer à échanger ensemble sur ces thématiques. Je vois qu'il reste déjà très peu de temps. On va écouter M et puis après on va revenir un petit peu sur tous les aspects scolarité. On reparlera de l'aspect. J'aimerais bien qu'on reparle aussi un peu de l'accompagnement à la sexualité. Vous l'avez un peu évoqué, toutes ces, et puis les métiers, tout ça. On va en parler dans un instant. On va écouter M là tout de suite. Qui a choisi ce titre de M? C'est vous, Christine.
C'est moi, oui.
Racontez-nous pourquoi ce titre.
Ben, j'aime beaucoup M, et puis j'écoute ben, ce dernier album qu'il a fait, L'Anomalie, et voilà, j'aime bien.
Et bon, on écoute un extrait maintenant sur RCN.
Comme un vertige sur la ville, moi, l'homme hibou blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. Comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise. Peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au mali d'émerveille, le mali Dieu crée à la flamme. Le mali danse dans mon âme. On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
C'est moi le capitaine, tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite, il reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément, vire-le, on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible, aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère.
On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Sur RCN, et puis c'est tout.
On parle ce matin de la transition et je discutais hors antenne avec Christine et on se rend bien compte depuis le début de cette émission de l'importance, enfin c'est même plus que, qu'important, c'est fondamental d'anticiper la transition compte tenu du manque de moyens, du manque de place, etc. Mais avec une difficulté, on en parle avec Christine, c'est que déjà quand on a un enfant qui souffre d'une épilepsie, quand on, il faut anticiper très très jeune le fait qu'il y aura une séparation, c'est hyper compliqué psychologiquement pour une maman.
Oui, parce que, ben enfin, Caïs, l'épilepsie, elle est venue un peu plus tard, mais il y avait le handicap qui était là.
Ouais.
Une grosse déficience, un diagnostic d'autisme sévère. Enfin, voilà, Caïs, il est absolument pas autonome. Et en fait, quand il était petit, il a été maintenu, alors, un peu trop longtemps en milieu ordinaire, mais de mon fait. Hein. Parce qu'effectivement, c'est compliqué de se dire... voilà, il dépend du médico-social. Hein, et voilà, il y a un cheminement à faire. Mmh. Et c'était pas simple. Et moi, j'avais un petit peu travaillé dans le médico-social, donc à une époque bien révolue. Et c'était d'autant plus difficile, je pense. Mmh. Et voilà. Alors, c'est tout. Ce qui a retardé son entrée en IME. Mais voilà, c'est long, faut de l'aide, du soutien, mais une fois que c'est intégré.
Oui, une fois que c'est mis en place.
Voilà, une fois que c'est mis en place, maintenant, depuis qu'il est en IME, je sais que sa place, c'est foyer adulte et que il ne peut pas être en milieu ordinaire, ça, c'est clair.
Cet accompagnement des parents vers la transition, il est même presque psychologique. Est-ce qu'il y a à un moment donné aussi un soutien psychologique à apporter aux familles ?
On aimerait. On aimerait. Je pense que tout patient, tout enfant et adulte ayant devant vivre une maladie chronique devrait avoir un soutien psychologique. Mmh.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est accepter sa différence et ça permet d'aller plus vite aussi dans la prise en charge, dans l'acceptation de la maladie. Après, la réalité, c'est qu'on n'a pas assez de moyens dans ce domaine-là.
Vous parlez même de la personne qui en souffre, mais les parents, c'est pareil.
Les deux.
Parce que cette rupture, déjà, pour des parents qui ont des enfants qui ne souffrent de rien, la séparation à 18, 19 ans, quand ils quittent la maison, c'est difficile. Mais j'allais dire, quelque part, c'est dans l'ordre des choses. Là, quand on parle d'un enfant qui, à partir de 12 ans, va devoir, 12 ans, même peut-être parfois plus jeune, ou un peu plus tard, mais va devoir quitter la maison, aller en IME, c'est très compliqué. C'est un deuil, pratiquement, non ?
Ah oui, je pense. Je pense très sincèrement qu'il y a un deuil. Alors, c'est un deuil qui a commencé avant, parce que c'est le deuil de la normalité.
Oui, ouais, déjà. Ouais.
Donc, ce deuil de la normalité, il a commencé par l'arrivée des crises, parfois l'arrivée d'un retard, en effet, hein, ou d'une déficience, d'un trouble du spectre autistique. Et il y a un deuil de la normalité, de la vie normale, en fait. Et un deuil de ce qu'on rêvait d'être aussi. Parce que finalement, on va pas vivre ce qu'on rêvait. Il va falloir vivre une réalité qui est différente.
Oui, parce que et c'est là qu'on peut amener les autres aspects qu'il faut traiter. C'est la scolarité, c'est vivre une vie relationnelle amoureuse, c'est vivre une vie professionnelle. Il faut accompagner aussi cette acceptation-là.
Bien sûr. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un autre point, c'est que les patients, même avec un déficit, une déficience intellectuelle, peuvent vouloir une certaine autonomie.
Bien sûr.
Et ils rêvent d'une certaine autonomie. Donc il y a un curseur à mettre qui est pas facile entre une surprotection. Et entre eux, j'écoute ta parole et je te laisse aussi la parole.
Vous nous en parliez hors antenne, peut-être resituer un petit peu le contexte.
C'est dans une encéphalopathie épileptique grave, c'est le syndrome de Dravet, c'est une épilepsie avec un retard mental assez important. Et on avait posé un questionnaire sur la transition, on avait pris 40 familles, et les patients reportaient qu'ils n'étaient pas mis assez en situation d'autonomie. Et ça m'avait beaucoup questionné, qu'est-ce que l'autonomie d'un patient avec un handicap mental ? Mais en même temps, c'est normal qu'ils aspirent à une autonomie.
Bien sûr,
Et où est le curseur ? Là, il y a un curseur à mettre qui n'est pas facile, à mon avis.
Sylvia, je voudrais vous entendre sur ce que disait tout à l'heure Christine, sur le fait de l'acceptation que son enfant va aller dans un milieu médico-social, que ce n'est pas facile à accepter, mais qu'après, une fois qu'on l'a compris, on sait que c'est pour la vie.
Oui, je voudrais rebondir par rapport à ça. Christine, elle a tout à fait raison. Je pense que le premier choc, c'est déjà l'annonce du diagnostic. Les premières crises d'épilepsie, les investigations, l'annonce diagnostique, c'est ça qui est la première difficulté, qui va faire que la famille va peut-être un petit peu se recentrer sur elle-même et avoir du mal à faire confiance en se disant, eh bien, ça va être un chemin différent. Mais ça va être tout ce travail-là qu'on va devoir faire pour accompagner les familles à pouvoir... prendre confiance dans des structures médico-sociales, se dire que leur enfant va être bien accueilli et bien pris en charge dans ce type de structure et construire avec eux la suite du parcours. C'est vraiment ça.
Oui,
j'entends tout à fait ce que Christine elle dit, bien évidemment.
Il y a une vraie relation de confiance à instaurer très rapidement, effectivement, avec les familles, et on l'entend bien ce matin. On va arriver à la fin de cette émission, déjà, et j'allais dire presque malheureusement, parce que on aurait, je suis sûr, encore des milliers de choses à se raconter, et sans nul doute, on en reparlera dans cette émission.
Oui, je pense.
Mais avant, Céline, je me tourne vers toi pour peut-être quelques ressources apporter à nos auditeurs, et qui, je le reprécise, d'ailleurs, si vous n'avez pas entendu l'intégralité de cette émission, émission. On vous invite à la réécouter en entier hein, dans quelques heures sur notre site internet www.rcn-radio.org. C'est quelques références qu'on peut retrouver.
Trois ressources centrales, un article de Mathieu Kuchenbusch et Rima Nabou, la transition des enfants avec épilepsie dans le système de soins adultes. En termes de recommandations, il y a toutes les recommandations de la Haute Autorité de Santé autour de la transition de l'adolescent avec épilepsie vers l'âge adulte, à lire impérativement, je dirais. Et les vidéos aussi, on peut citer le colloque 2023 de la Fédération française de recherche pour l'épilepsie, épilepsie de l'adolescent et du jeune adulte, problématique spécifique à la transition. Moi, je tiens à dire, en cette moitié de deuxième saison d'Épicer Tout, un grand merci à Thomas, déjà, à
bon,
toi.
Bon, bon plaisir, on est très heureux de pouvoir faire cette émission ensemble.
Et à tous nos partenaires qui sont derrière, en back office pour construire les sujets. Absolument. Et la recherche de témoins. On peut citer le Centre de référence des épilepsies rares du CHU de Nancy, Ségolène Doyon, Épilepsie France, les associations Épilepsie France, Accueil Épilepsie Grand Est et la Fédération EFAP. Et je me permets de dire un dernier mot, on se retrouve en septembre pour le sujet épilepsie et approche non médicamenteuse. Voilà,
ce sera le sujet de septembre. C'est nous qui te remercions, Céline, et on est heureux de la confiance que vous faites à RCN aussi pour porter cette émission. Je vous remercie tous d'être venus ce matin. Merci à Sylvia Castellar. Je rappelle, vous êtes coordinatrice du pôle enfants-adolescents du Centre de ressources handicap rares à Composante Épilepsie Sévère Fares. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous ce matin, Sylvia.
Merci à vous. Merci
avec grand plaisir. Merci Mathieu Kuchenbusch. Je rappelle, vous êtes neuropédiatre au CHRU de Nancy et au COSE, qui est le centre d'observation et de cure pour enfants épileptiques. Merci encore une fois d'être venu nous voir ce matin.
Merci beaucoup.
C'était la deuxième, il y en aura d'autres.
Oui, avec plaisir, merci.
Avec joie. Et puis un merci tout particulier à vous, Christine Domange, d'être venue ce matin. Vous venez spécialement de Reims en plus pour nous parler de votre parcours qui a été très riche d'entendre ce matin dans notre émission. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Et merci pour la confiance que vous nous avez accordée. Merci à Jean-Luc à la technique. Et puis on se retrouve donc au mois de septembre pour un prochain numéro de Épicer Tout. Belle journée à tous et bel été.